Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
D'autres. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
On parle beaucoup de vaccination. On en parle beaucoup aussi de ce sentiment de soulagement qui animait beaucoup de gens hier dans les cliniques de vaccination dans le Grand Montréal. Mais on parle aussi d'AstraZeneca, un vaccin qui est un peu mal aimé, bien qui était approuvé dans plusieurs pays, dont le Canada. Il semble être comme toujours le dernier au podium devant Pfizer et Moderna. Puis on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a à prendre et à laisser dans toutes les critiques qu'on entend parler? Il y a des gens qui disent, oh, moi, je veux pas l'AstraZeneca. On va en parler avec le médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. On appelle communément l'INSPQ, Gaston Dessert. Bonjour, M. Dessert.
Bonjour.
Dis-toi, même si Santé Canada a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 18 ans et plus, le comité consultatif, le CCNI, a émis des doutes sur son efficacité à protéger les populations plus âgées du coronavirus. Pourquoi?
Ben, écoutez, je pense que c'est une question d'avoir des données là, qui soient robustes chez les personnes plus âgées. Actuellement, ce vaccin-là, je pense que quand vous faisiez votre introduction, il a démontré qu'il était efficace pour réduire l'infection, donc avoir la COVID, la maladie, puis il était encore plus efficace pour prévenir les maladies sévères. Donc ça a été bien démontré. Maintenant, évidemment, le problème, si je peux appeler ça le problème, c'est que les vaccins de Moderna et Pfizer ont montré une efficacité qui était plus élevée contre l'infection qui soit, je dirais, modérée, là. Donc pas nécessairement sévère, parce que pour l'infection sévère, c'est effectivement, je dirais, là, dans le cas d'AstraZeneca aussi, une très bonne performance. La question des personnes plus âgées, ben, c'est effectivement que les gens qui hésitent disent, ben, s'il y a quand même des personnes âgées qui attrapent la COVID, même si elle est moins sévère, ben, si l'autre vaccin donne une meilleure performance, pourquoi on l'utiliserait? Puis je pense que c'est ça qui est le dilemme. Et actuellement, évidemment, je pense que il y a toujours deux points de vue qui sont mis un à côté de l'autre. Est-ce que les vaccins de Pfizer et de Moderna semblent plus efficaces globalement? La réponse est oui. Mm-hmm. Est-ce que le vaccin d'AstraZeneca pour la maladie sévère semble aussi efficace que les deux autres? Ben là aussi, la réponse serait oui. Mais donc, dans une période où on aurait tous les vaccins qu'on voudrait, peut-être mm-hmm. que là, on dirait, bon, on va privilégier ceux qui sont vraiment efficaces tout le temps, alors que dans la période actuelle, on n'est pas avec trop de vaccins. On en manque et on va en manquer pour encore des mois. On en reçoit un petit peu à chaque semaine, mais si on veut protéger toute la population, là, on manque vraiment de vaccins et s'il y en a qui sont disponibles, qui protègent très bien contre l'hospitalisation, la maladie sévère, ben c'est un outil quand même qu'on ne devrait pas négliger.
Mais, docteur Dessert, c'est quand même tout un casse-tête parce que la question de l'approvisionnement est majeure ici. Puis là, actuellement, ce qu'on distribue, quand on fait ces grandes cliniques de vaccination comme on a vu hier, essentiellement, c'est du Pfizer qu'on donne, j'imagine. Est-ce que on a des petites doses d'AstraZeneca ou de Moderna à côté parce que ça serait plus approprié en fonction des groupes d'âge ou on doit travailler toujours avec la même substance?
Jusqu'à maintenant, on a toujours eu à peu près, là, je dirais, 30% de Moderna, 70% de Pfizer au Québec, là, grosso modo. Le vaccin d'AstraZeneca, donc, vient d'être homologué. Il n'y a pas encore de doses qui ont été distribuées au Canada. Mm-hmm. Puis, évidemment, ça, c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, là. Pfizer, Moderna, 70-30% versus 30%. Évidemment, AstraZeneca, ils ont des doses qui seraient disponibles rapidement. Puis, ils vont en avoir de plus en plus. Alors là, évidemment, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour essayer de protéger le mieux possible notre population contre les infections graves? Et encore une fois, on est dans une course contre la montre parce que là, vous entendez parler depuis les dernières semaines de tous ces variants-là, mm-hmm. des inquiétudes qu'on a que les variants soient tellement contagieux qu'ils réussissent à prendre le plancher, à même faire que les mesures qu'on a en place actuellement soient insuffisantes pour empêcher leur croissance. si c'est le cas, et écoutez, il faut vacciner au plus vite le plus grand nombre possible avec les vaccins qui vont bien protéger contre la maladie grave.
Et dans le cas des variants, j'imagine que et on est sous l'impression actuellement que lorsqu'on trouve des cas de variants, on les identifie et on les isole. Est-ce qu'on est plus vigilant qu'on l'était, disons, il y a un mois sur ce sujet-là?
Je pense que oui, parce qu'il y a un mois, notre détection des variants, elle était très, très, très limitée, alors que maintenant, on a des tests qu'on appelle le criblage, qui est fait sur les échantillons où on retrouve du coronavirus, qui permettent d'identifier ces variants-là. Maintenant, un des problèmes avec le vaccin d'AstraZeneca, c'est que en Afrique du Sud, contre le variant sud-africain, là, il y a eu une performance qui était nettement moins bonne que ce qu'il y a eu comme performance ailleurs dans le monde. Avec les autres coronavirus, pas ailleurs dans le monde, mais avec les autres coronavirus. En Grande-Bretagne, où ce vaccin-là a été développé, donc contre le variant britannique, il donne quand même d'excellentes performances. Donc, c'est vraiment face au virus, là, au variant sud-africain et possiblement aussi au variant brésilien, là, où il pourrait avoir, je dirais, une moins bonne performance.
Mais dites-moi, le vaccin AstraZeneca, en Europe d'ailleurs, fait l'objet d'une espèce d'impression de vaccin d'escompte, un vaccin à rabais un peu moins bon. Et qu'est-ce qui a amené cette dimension-là? Il y a des gens même qui évoquent que, bon, ça lui, il a été testé à partir d'un virus issu d'un chimpanzé. Faut distinguer le vrai du faux par rapport à AstraZeneca.
Bon, AstraZeneca est effectivement un vaccin qui est avec une autre technologie que les vaccins de Pfizer et Moderna.
Qui sont avec cette technologie d'ARN messager. AstraZeneca, exactement. C'est plus standard.
AstraZeneca, c'est plus standard, mais c'est pas du tout standard en termes de vaccins qu'on utilisait dans nos programmes réguliers de vaccination. Okay. Donc, c'est essentiellement un virus qui on dit qui ne peut pas se répliquer, donc qui est injecté et qui contient un fragment qui mime donc la fameuse protéine qu'on appelle la spicule, là, qui est la protéine qui permet au virus du coronavirus de s'attacher dans nos voies respiratoires. Et donc là, le système immunitaire va développer de l'immunité face à cette protéine-là et va protéger. Maintenant, ça, c'est donc une technologie pour laquelle on a effectivement un virus, puis dans le cas d'AstraZeneca, effectivement, c'est un virus qui est un adénovirus qui vient d'une autre espèce animale, les chimpanzés, et qui n'a pas la capacité donc de se multiplier chez nous. Fait que ça, c'est important parce que souvent les gens sont inquiets et se disent ah ben là on va avoir un virus qui va se développer chez nous, on va acquérir
C'est l'inverse. Donc le fait que ça provienne éventuellement d'un chimpanzé, ça nous protège plutôt que l'inverse.
Ben c'est pas que ça nous protège. En fait, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler ça un transporteur. On dit un vecteur viral. Là, ça transporte ce qui va permettre de montrer à notre système immunitaire une partie de l'autre virus. Mais comme on sait que l'adénovirus du chimpanzé est pas dangereux pour l'humain, là, donc on a un bon transporteur qui, lui, aura pas de conséquences pour nous rendre malades. Lui, nous rendra pas malades, mais il va bien exposer la protéine contre laquelle on veut que notre système immunitaire développe des anticorps.
Dites-moi, M. Dessert, l'AstraZeneca, certaines personnes, puis je tiens, il faudra absolument qu'on s'en reparle, parce qu'on n'a pas le libre choix du vaccin qu'on va recevoir, mais certaines personnes évoquent aussi que le vaccin AstraZeneca a évidemment le gros avantage de pouvoir être conservé simplement au réfrigérateur, qui coûte beaucoup moins cher, coûterait 5$ la dose, ce qui est beaucoup moins que les autres vaccins qui seraient comparables. Est-ce que l'autre problème, c'est faut se rappeler qu'on n'a pas le choix individuel du vaccin qu'on va recevoir?
Ben, pour le moment, non, il n'y a pas de choix individuel. Maintenant, pour la question financière, actuellement, le gouvernement canadien, il a pris des engagements pour les acheter, ces doses-là. Donc, c'est pas une question de dire, ben, on va prendre celui-là plutôt que tel autre parce qu'il est un peu moins cher. les doses que pourraient fournir Pfizer et Moderna, s'il y en a, ils sont déjà là dans les contrats que paye le gouvernement fédéral. Donc, c'est pas une question d'économie à ce moment-ci, c'est vraiment une question d'approvisionnement. Maintenant, comment on peut utiliser le vaccin d'AstraZeneca? Est-ce qu'on dira, ben, écoutez, compte tenu de ce qui se passe, est-ce que les gens, on les informe, on dit, écoutez, ceux qui sont qui veulent avoir le vaccin d'AstraZeneca, plutôt que de ne pas avoir de vaccin actuellement, on vous invite à vous inscrire. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Il y a des discussions à cet égard-là. Mais c'est certain que, encore une fois, pour ce qu'on cherche le plus à protéger, c'est-à-dire les hospitalisations, les décès, le vaccin d'AstraZeneca donne une bonne performance.
Exactement. Dis-moi, je voudrais justement vous parler d'un de vos collègues, donc on peut lire dans la Gazette aujourd'hui, Nicolas Brousseau, qui fait partie, comme vous, du comité sur l'immunisation, puis qui évoque ici là que d'ici deux semaines, on pourrait mettre à jour quels sont les gens qui ont des conditions particulières qui justifieraient qu'ils soient vaccinés en amont. On a beaucoup aussi parlé des gens, des gens qui ont un cancer, par exemple, qui devraient être vaccinés en amont. Est-ce que vous attendez à des modifications au niveau de la sélection des groupes prioritaires dans les prochaines semaines?
Ben, les groupes prioritaires, ils sont d'abord définis par l'âge, mais évidemment à l'intérieur de chacun des groupes d'âge, et particulièrement quand on va arriver chez les gens de moins de 70 ans, on parle de vraiment de grands nombres d'individus et de prioriser en fonction de certains problèmes de santé qui les rendent plus à risque. C'est vraisemblablement là où on va aller. Maintenant, est-ce qu'on doit mettre les gens qui ont un cancer au-delà de quelqu'un qui a un autre problème de santé? Comment on va ordonnancer ça? Ça, c'est plus compliqué. Puis évidemment, les gens qui s'occupent de chacun des groupes de patients disent, ben nous autres, on devrait passer avant les autres. Là, évidemment, c'est un arbitrage qui est un peu compliqué. Maintenant, dépendant, évidemment, plus on a de doses de vaccin, moins c'est compliqué, parce qu'on dit, ben écoutez, venez tous si vous avez tous ces...
Et si on a le personnel, parce que là, on a des problèmes matériels, puis on a des problèmes de personnel, évidemment. Donc, évidemment, on peut s'attendre à ce que on ait peut-être des informations là-dessus au point de presse de 13h avec M. Paré, Dubé et Arruda.
Je ne sais pas si pour la priorisation de chacun des types de problèmes de santé, ça sera quelque chose qui va être annoncé aujourd'hui. Ça me surprendrait.
Mais docteur Dessert, pensez-vous qu'on va parler par contre justement de la priorisation en fonction des disparités d'âge dans les différentes régions? Parce que déjà hier, il y a des gens de la Montérégie qui ont dit comment ça, que Montréal et Laval, 70 ans et plus, ça va, puis pas pour nous.
Ben ça, c'est essentiellement dû à la situation épidémiologique de Montréal et de Laval. C'est sûr qu'à Montréal et Laval, actuellement, c'est là où le coronavirus continue à frapper le plus fort dans toute la province. Et donc, si on veut protéger les hôpitaux, protéger les gens d'être hospitalisés pour la COVID, ben on doit immuniser le plus rapidement possible les gens qui sont dans les zones les plus touchées. Alors, c'est ça qui justifie la vaccination qui a été, je dirais, rendue plus accessible à un plus grand nombre de personnes, donc les 70 ans et plus plutôt que les 80 ans et plus dans les autres régions, pour essayer d'amener la plus grande prévention possible dans la zone où actuellement le coronavirus sévit le plus.
Et ce serait pas le cas en Montérégie?
Ben, c'est pas que c'est pas le cas, c'est que c'est moins le cas. C'est-à-dire que quand on regarde les données, on voit que la Montérégie est quand même moins touchée que Montréal et Laval.
Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une belle nouvelle. On est content d'entendre qu'on aura d'ailleurs, premièrement, vaccination qui commence de façon massive, comme on a vu hier, des gens enthousiastes qui y vont, et comme vous le disiez tout à l'heure, plus de choix, entre autres, avec AstraZeneca. Espérons qu'on l'aura bientôt. Est-ce qu'on s'attend à une livraison rapide de ce produit-là?
Il y a effectivement la possibilité que le Canada reçoive, je pense, quelque chose comme 500 000 doses là, très, très rapidement. Alors ça, ça sera utilisé là, très, très rapidement aussi si on reçoit ces doses-là.
Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations précieuses, M. Dessert. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Gaston Dessert, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, qu'on appelle souvent par son acronyme l'INSPQ.